Alors, bon matin à tous. Combien ça me fait plaisir de me retrouver dans notre assemblée, laquelle j'ai été pendant plus de 20 ans. Et des beaux souvenirs, des visages que je revois et plein de souvenirs sur ces 20 années passées parmi vous, de bons souvenirs. Et je veux remercier le Seigneur pour ces années où on a grandi ensemble. Ce matin, je voudrais vous partager sur le titre que j'ai donné, « Il y a ceux qui ne lâchent jamais ». Le monsieur qui est là est en position assez précaire et il ne faut pas qu'il lâche, lui, là, parce qu'il est mal placé. À travers les 20 années où j'ai été ici dans l'Assemblée, il y a passé beaucoup de gens, des centaines de personnes, peut-être plus. À travers les 70 ans, sûrement plus que ça sont passés. Et il y en a qui ont lâché. Il y en a qui sont peut-être dans leur maison présentement, qui appartiennent au Seigneur aussi, mais qui, pour toutes sortes de raisons, ont abandonné. Et il y en a qui avaient été tentés à travers les années, à travers leurs difficultés, à travers leurs épreuves, auraient été tentés aussi d'abandonner. De lâcher. Peut-être c'est votre situation ce matin, à travers ce que vous avez pu vivre. Il était un moment donné dans votre vie chrétienne que c'était plus difficile, puis vous avez dit, oh, c'est lourd, c'est difficile de tenir, et des fois j'aurais le goût de tout abandonner. Vous savez, c'est arrivé à des grands hommes de Dieu. Hein? Il dit au Seigneur, j'aime mieux mourir, je suis tanné, donne-moi la mort. Tout le monde ici a abandonné, puis c'est trop difficile. Donc, ils ont été tentés, vous avez peut-être été tentés d'abandonner, mais vous êtes là. Puis vous n'avez pas lâché. Cinq choses que je vais utiliser ou que je vais noter dans le livre de Daniel, le premier chapitre. Vous pouvez tourner dans le premier chapitre de Daniel. Cinq choses que j'aimerais soulever. Qui aurait pu pousser et Daniel et nous-mêmes aussi, pour les mêmes raisons, à abandonner. Et Daniel n'a pas lâché, parce qu'il fait partie de ceux qui ne lâchent jamais. Il va essayer de faire ressortir qu'est-ce qui a permis à Daniel de ne pas lâcher. Donc, Daniel, chapitre 1, on va lire tout le chapitre. La troisième année du règne de Joachim, le roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem, il l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui on enseignerait les lettres, la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de la table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver grâce à Daniel devant le chef des eunuques. Et le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Anania, Michaël et Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent des mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant apportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens. Et il ne s'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Il y a des gens, lorsque je suis venu au Seigneur, qui m'ont impressionné de toute façon spéciale dans les Écritures. Et il y a Joseph. Pourquoi Joseph? Bien, Joseph, à cause de son silence à travers tout ce qu'il a vécu. Vous ne verrez aucune plainte de Joseph, malgré tout ce qu'il a vécu. Ça m'a impressionné. Et Daniel. Daniel, quand je suis venu au Seigneur, j'étais jeune, j'avais 23 ans. Daniel, un jeune homme qui est dans une situation terrible, va s'attacher au Seigneur et va tenir bon malgré tout ce qui vient de lui arriver. 5 choses qu'on va tirer du texte qui pourraient nous pousser à lâcher prise et à tout abandonner. Le premier point, je vous fais apparaître ça, le refroidissement de l'Église. Pourquoi le refroidissement de l'Église? Eh bien, Daniel sait ce qu'il a vécu. Pourquoi Daniel est là chez Nebuchadnezzar, à Babylone? Eh bien, parce que tout son peuple avait abandonné Dieu. Pratiquement, avec toutes sortes de pratiques d'idolâtrie, on adorait toutes sortes de dieux et c'était vraiment la débâcle dans tout son pays. Le refroidissement spirituel d'Israël avait provoqué cette déportation de tout Israël dans un autre pays que le leur. Alors Daniel était entouré de gens qui avaient abandonné leur vie spirituelle. Il était entouré de gens qui avaient mis leur espérance en autre chose, qui avaient mis leurs énergies à d'autres niveaux. Tout son peuple s'était refroidi spirituellement. Et combien c'est facile lorsque tout le monde abandonne de nous-mêmes, se laisser entraîner par la vague d'abandon et d'abandonner comme les autres. D'aller vers ces nouvelles idoles dont tout le monde tripe dessus présentement. Dans mon peuple, tout le monde se sont détournés de Dieu. Puis maintenant, la grosse mode, c'est ça. Puis se tourner eux aussi vers ces idoles et se laisser entraîner par tout ce qu'ils entendent de ces idoles-là. En 1980, comme la plupart le savent, il y a eu un réveil, non seulement au Québec, mais je pense à travers toute l'Amérique du Nord. Beaucoup de gens se sont convertis dans les années 75 à 85. La plupart d'entre vous, probablement, faites partie de ceux-là. Il y a eu un réveil. Et là, il y avait une effervescence dans les assemblées. Et c'était plein de nouveaux qui arrivaient. Et là, il se passait vraiment quelque chose, puis c'était encourageant pour tout le monde. Hey, les gens se convertissent. Moi, je suis arrivé au Seigneur dans une toute petite assemblée, et il y a eu dans la même assemblée, je pense qu'il était 15 quand je suis arrivé à l'église avec ma femme, et il y avait eu une affaire comme 45 conversions dans la même année. C'était fou, là. C'était le fun, puis c'était plus facile d'être zélé pour le Seigneur, puis dire, on voyait la main de Dieu agir, puis le peuple de Dieu était là, puis tout le monde était content. Dans un contexte comme ça, on n'est pas porté autant à abandonner que lorsque le contraire se produit. On était dans une église florissante, et là, tout à coup, ça commence à décliner. Et là, l'église se refroidit, et on vit des difficultés. Et c'est là que ça devient plus difficile de monter, de continuer, de garder, de rester attaché. À la Villa du Carmel, à chaque année, on reçoit la conférence jeunesse. 250 jeunes. Des jeunes qui sont, je dirais, peut-être à 70 % des gens qui sont dans des assemblées chrétiennes, qui, à l'adolescence, n'ont pas pris d'engagement sérieux pour le Seigneur. Il y en a qui l'ont pris, mais d'autres ne l'ont pas pris. Mais ils fréquentent l'Église à chaque semaine, puis avec leurs parents, puis tout ça. Ils tiennent le cap. Mais spirituellement, c'est pas fort. Ça ne vole pas haut. Mais quand ils viennent au camp, 250 jeunes, des cantiques, ça crie l'amour de Dieu. C'est zélé pour Dieu. Ils voient des moniteurs, des Will Pugh, des Jonathan qui sont là, qui les encouragent, des Max Trout, des jeunes hommes quand même zélés pour Dieu. Et là, on voit la jeunesse. Les jeunes, lorsqu'ils viennent passer leur fin de semaine au camp avec le groupe, ça remonte. Et leur zèle, et là, ils disent, oui, là, je vais me rattacher au Seigneur. Puis là, ils reprennent courage. Puis non, je ne lâcherai pas, puis je vais y aller. Puis ils retournent dans leur maison. Une semaine, ça reste encore, ils sont encore contents. Ils viennent d'arriver au camp, 2 semaines, 3 semaines. Et là, ça redescend. Parce qu'on voit l'effet du groupe. L'effet du groupe est là. Et ce n'est pas mauvais que l'effet du groupe soit là. Le problème, c'est quand on est dépendant du groupe. Et Daniel n'était pas dépendant du groupe. Parce que tout son peuple avait abandonné. Au point qu'il avait été déporté et qui avait subi, avec les autres qui avaient abandonné, il avait subi le jugement de Dieu. Et parce qu'il était attaché à Dieu, ce n'est pas la rébellion que ça l'a amené dans son cœur. Il s'est attaché encore plus fort. Parce qu'il était déjà attaché au Seigneur. Et sa relation avec Dieu ne dépendait pas de ce que tout le peuple soit en bonne relation avec Dieu. Mais lui s'était attaché à Dieu. Et comment on s'attache à Dieu? On s'attache à Dieu avec une relation personnelle avec Dieu. On s'attache à Dieu lorsqu'on ouvre les Écritures et lorsqu'on réfléchit à ce qu'on lit et qu'on forme nos convictions spirituelles. Et qu'on les ancre, qu'on les enracine. Lorsqu'on est venu au Seigneur, je me rappelle, mon frère, il avait dit à ma mère, parce qu'il était inquiète pour moi, lui, il arrivait de l'hôtel à 4 heures du matin, il avait de la misère à monter les marches pour se rendre dans sa chambre, mais en passant, il voyait que moi, j'étais dans la mienne, que les lumières étaient allumées, puis j'étais en train de lire ma Bible. Puis là, il a dit à maman, il dit, ouh, je fais demain, il va pas bien. Il est en train de capoter avec la Bible, il lit la Bible à 4 heures du matin, à 3 heures du matin. Mais à ce moment-là, j'étais en train de former mes convictions. J'avais besoin de ces années, j'avais besoin de ces heures, et de ces mois et de ces semaines avec la Bible ouverte, moi-même, en plus de ce qu'on pouvait écouter parce qu'on allait dans 7 réunions par semaine. C'était peut-être exagéré, vous allez me dire, mais on avait besoin, on allait écouter la parole de Dieu et on avait besoin de former nos propres convictions. Alors, lorsqu'on est bien enraciné, lorsqu'on est bien fondé, lorsque les gens autour de nous ont tendance à vouloir s'éloigner, eh bien, ça nous affecte moins. Je ne dis pas que ça ne nous affecte pas, parce que ça nous affecte quand même. Mais ça nous affecte moins. Et on s'attache d'autant plus fortement au Seigneur. C'est important de former vos convictions. Avant de venir au Seigneur, je ne sais pas si tout le monde ici a vraiment formé leur conviction concernant le salut. Est-ce que vous êtes sûr, tout le monde ici, d'avoir la vie éternelle puis d'être sauvé? Et je pense que c'était au cégep. On avait été invité à aller écouter La Croix et le Poignard. Je n'étais pas sauvé. Mais je savais que Dieu existait puis je croyais en Dieu. Je savais que Jésus existait, puis je croyais que Jésus existait. Puis je croyais que c'était correct, Jésus. Je croyais que Jésus était mort sur la croix. Je croyais que Jésus était mort même pour les péchés. Mais je n'étais pas sauvé. Et lorsqu'ils ont passé le film, à la fin, ils ont fait un appel. Si vous voulez accepter le Seigneur, venez nous voir, on va prier avec vous autres. Et tout ça, si vous avez des questions, on va répondre à vos questions. Aussitôt qu'il a arrêté de parler, j'ai quitté la salle, j'étais assis au fond. Je me suis emmené ici en avant et j'ai dit au gars, tu vas m'expliquer ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé. Bien, il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus. J'y crois au Seigneur Jésus. Je ne suis pas sauvé. Explique-moi. Jésus est mort pour les péchés. Je sais qu'il est mort pour les péchés, mais je sais que je ne suis pas sauvé. Il y a de quoi je ne comprends pas. C'est quoi? C'est... Je ne comprenais pas parce que... Qu'est-ce que je ne comprenais pas? C'est que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et moi, je savais que Jésus était mort sur la croix pour les péchés, mais je ne savais pas pourquoi qu'il fallait qu'il meure s'il voulait nous sauver. Pourquoi cette méthode de prendre, de monter sur une croix, de verser son sang pour me sauver, je ne le saisissais pas. C'est quoi l'idée de ça? Jusqu'au jour où j'ai entendu ma première prédication, la première fois que j'ai entendu une prédication, c'était sur le salut, et c'est la première fois que je l'ai entendu, puis j'ai accepté le Seigneur à cette première prédication. Parce qu'il expliquait le sang dans la Bible, les sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le salaire du péché, c'est la mort. Là, j'ai saisi pourquoi Jésus, s'il voulait payer ma dette. Moi, j'avais péché, je méritais la mort. Et Jésus vient et lui dit, parce que toi, tu as péché, parce que toi, tu mérites la mort, mais parce que moi, je t'aime, j'ai décidé de mourir à ta place. Si tu veux de mon salut, je te l'offre gratuitement. Là, c'était pas juste, je crois en Dieu, j'ai la foi en Dieu, je vais être sauvé. Non, j'ai la foi en Jésus, je vais être sauvé. Non. J'ai la foi dans ce que Jésus est monté sur une croix à ma place, puis qui a donné sa vie, puis qui est mort pour mes péchés. C'est ça, la foi. C'est pas croire que Dieu existe, c'est pas croire que Jésus existe. Les démons croient ça. La Bible nous dit, puis ils tremblent. On a besoin de former nos convictions, non seulement auprès du salut. J'espère que ces convictions-là, au niveau du salut, que vous savez que vous êtes sauvés, pas parce que vous venez dans l'église du Cap de la Madeleine, mais parce que Christ est mort à votre place et que vous avez accepté ce sacrifice. Mais on a besoin aussi de former toutes nos convictions après. Pour tenir solide avec le Seigneur. Et Daniel avait fait ça. Daniel avait cette relation personnelle avec Dieu. Daniel avait formé ses convictions sur Dieu. Et Daniel a tenu bon. Même dans des situations extrêmes, on t'emporte avec ta famille, et peut-être même pas sa famille, on n'entend pas parler de sa famille, et on t'emporte, puis on t'enlève de ton pays, et on fait de toi un esclave. On a besoin de former nos convictions. La question que je vous pose ce matin, est-ce que vous êtes dépendant de la relation du niveau spirituel des gens qui vous entourent pour marcher avec Dieu? Est-ce que votre foi est une foi de groupe? Est-ce que votre engagement est un engagement de groupe? Malheureusement, si c'est ça, lorsque le groupe va diminuer ou lorsque le groupe va s'amenuiser, lorsque le groupe va baisser spirituellement, vous allez baisser avec. Formez vos convictions, formons nos convictions avec le Seigneur. Et ainsi, on sera plus solide et on va tenir ferme. Il y avait des faux prophètes, il y avait des faux docteurs qu'on lit dans l'Épître aux Corinthiens, deuxième Épître. Des faux docteurs qui étaient charnels, qui n'étaient pas du tout spirituels, et qui faisaient partie du peuple de Dieu. Et l'apôtre Paul, parlant de ces faux docteurs, qui se pensaient bien spirituels parce qu'ils étaient dans le groupe, il leur dit, en se comparant les uns aux autres, ils manquent d'intelligence. Parce qu'ils se regardaient, puis ils se pensaient spirituels, puis ils regardaient l'autre à côté, puis ils disaient, je suis plus spirituel que lui. Et au lieu d'avoir cette vraie relation avec Dieu, qui leur aurait démontré qu'ils n'étaient pas si spirituels que ça. C'est pas en se comparant à la spiritualité des autres, et c'est ce qui arrive lorsqu'on vit une spiritualité de groupe, eh bien, on se compare avec l'autre à côté, puis on s'imagine qu'on n'est pas pire par rapport à l'autre, puis on se dit, on s'est sanctifié et on a avancé spirituellement. Non, c'est auprès du Seigneur que ça se passe, c'est auprès des Écritures que ça se passe, et c'est là qu'on grandit dans notre vie spirituelle. Donc, ce premier point, le refroidissement de l'Église, une relation personnelle avec Dieu, des convictions qu'on forme nous-mêmes. Le manque de programme, la deuxième chose. Pourquoi j'ai pris ça avec avec Daniel? Lisons le verset 2. « Le Seigneur livra entre les mains de Joachim, roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar apporta les ustensiles au pays de Shinéar dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor et de son Dieu. » Lorsqu'ils ont été apportés, ils ont été déportés à Babylone, on a mis le feu au temple, on a volé les ustensiles parce qu'il y avait des choses en or là-dedans, et il y avait des choses qui étaient pour même ces païens-là, des choses sacrées, qu'on pouvait ajouter dans nos temples païens pour unir ça avec les autres choses sacrées des dieux de Babylone. Et tous ces ustensiles et tout le temple, c'était des choses au temps où Daniel restait dans son pays qui servaient à tout le peuple de leur relation avec Dieu. Ils allaient au temple et ces ustensiles-là étaient utiles pour leur vie spirituelle parce que ça leur enseignait plein de choses. Les rituels qui étaient là au temple étaient là pour leur enseigner plein de principes spirituels et qui les aidaient à garder et à tenir bon dans leur vie spirituelle. Donc, ça faisait, on pourrait dire, à ce moment-là, c'était comme des programmes d'église qui étaient utiles pour faire garder les gens dans leur foi. Mais là, il n'y en a plus de temple. Il n'y en a plus d'ustensiles. Il n'y en a plus de rituels parce qu'ils ne sont plus chez eux. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est que trois fois par jour, ils se cachent pour aller prier parce qu'il n'y a pas le droit de prier son Dieu. Il se tourne vers Jérusalem et c'est son petit rituel qui y reste. Il n'y a plus de programme. De plus en plus dans nos églises, il faut rivaliser d'ingéniosité pour inventer des programmes qui vont permettre aux gens de venir à l'église. Parce que si on a un bon spectacle, si on a un bon chanteur, si on a un bon groupe de musique, si on a un bon groupe d'école du dimanche, Si on a un bon camp pour nos jeunes, est-ce que je suis en train de dire que tout ça, c'est pas bon? Les rituels, est-ce qu'ils n'étaient pas bons en Israël? Ben oui, ils étaient bons. C'est sûr que toutes ces choses-là, c'est bon. C'est bon pour nous aider à garder notre foi, mais ce n'est pas vital. Et malheureusement, pour beaucoup de chrétiens qui ont de la difficulté à rester attachés, et lorsque les programmes ne sont pas tout à fait à leur goût, la musique à l'église, c'est pas terrible. Ça manque de ci, ça manque de ça. Et on est insatisfait. C'est comme si les programmes ne sont jamais assez développés pour être capables d'attirer les gens à venir à l'église et à tenir bon et à continuer à marcher avec leur Dieu. Les rituels sont utiles, mais ils ne sont pas vitaux. Les chrétiens qui sont dépendants des programmes, sont des chrétiens qui manquent de profondeur. Je me souviens lorsque je me suis converti, avant ma conversion, vous savez, dans le monde, là, des programmes, il y en a. Puis il y en a des super de bons. Hein? À Las Vegas, tu vas voir Céline Dion, tu en as plein la vue, puis tu en as plein les oreilles, puis c'est beau, ça se peut pas. C'est comme si les églises, on rivalise dans le fond. Si on veut faire des programmes intéressants pour attirer le monde, on rivalise avec tout ça. Et on est loin de là, hein, on est loin de ça. Même si on travaille fort pour essayer d'encourager le peuple de Dieu par nos programmes. Quand je suis venu au Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était dans une petite église où on était 15 personnes. Et moi, avant de venir au Seigneur, j'allais dans ces gros spectacles-là, au forum, puis les affaires épouvantables, les spectacles visuels incroyables, puis avec de la musique super heavy, super pétée, puis tout ça, des vrais professionnels. Et là, j'étais avec Régent Pépin, on vivait la même chose toutes les deux, on s'est convertis en même temps. Puis je me rappelle encore, je suis assis dans cette petite église où on est 15 personnes. La personne qui dirige en avant, elle n'a pas le don. Elle vient tout tremble parce qu'elle sait qu'elle a de la misère. Et la musique, il n'y a pas de musique. On chante a cappella. Ou, ben non, s'il y avait du piano, un peu de piano, tout le monde, ou à peu près, chantait faux. Puis, on n'était pas gros, hein, puis c'est difficile de faire. Quand tu n'as pas de chorale pour cacher les ceux qui faussent, là. Quand on est 200, 300, il y a beau avoir du monde qui fausse, on le sent pas. Mais tu t'églises de même. Puis là, moi, j'étais assis là. Puis je me disais, j'en reviens pas d'être assis ici avec mon chum Régent, avec la musique qu'on écoutait avant, puis qu'on trippe en train de chanter attaché à la croix pour moi. Je me disais, si mes chums me verraient, si les gens avec qui on se naît nous verraient, ils diraient, ça se peut pas, c'est vrai qu'il est sauté, pour triper là-dessus. Mais vous savez, c'était pas les chants qui me faisaient triper. C'était les paroles des chants, attachées à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Hey. Blanc, plus blanc que neige. Hey. Il a tout lavé, mes péchés. C'est fini. Mon plus gros problème de ma vie, il est réglé. Le plus gros problème que j'ai jamais eu, il est réglé, puis il est réglé pour l'éternité. Personne ne pourra m'enlever ça. C'est ça qui m'assisait dans l'Assemblée. C'était pas les programmes, c'était pas la musique. Daniel, il n'y en avait plus de programme. Il a quitté son pays. Mais la parole de Dieu était là dans son cœur. Son Dieu le connaissait. Puis il savait qu'il retournerait dans son pays. Puis que les promesses de Dieu, là, t'as beau être déporté de ton pays, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Ça fait 2000 ans qu'Israël a quitté son pays. Et maintenant, le Seigneur est en train de les ramener dans son pays parce qu'il est fidèle, puis ses promesses sont là, puis ils vont venir. Puis il y a des Juifs qui le croient, puis qui l'attendent. Des Juifs convertis. Les programmes. Merci pour les programmes. Merci pour les professeurs, les groupes d'école du dimanche. Merci pour les musiciens. Merci pour la Villa du Carmel, tout ce groupe qui s'est donné pendant 7 jours de temps, quasiment jour et nuit. Parce qu'on dort mal la nuit, on se lève de bonne heure le matin, puis on se couche tard le soir. Ils sont brûlés, même ils tombent malades tellement qu'ils sont épuisés. Merci pour ces programmes-là, parce que oui, c'est bon, mais il ne faut pas que ça soit vital. Il faut que la parole de Dieu soit vitale. Il faut que ça soit elle. Il faut que ça soit elle qui vienne nous chercher, puis qui vienne nous garder attachés au Seigneur. Le troisième point, l'autosuffisance. Pourquoi j'ai pris l'autosuffisance dans les textes qui sont là? Est-ce qu'on voit ça? Chapitre 3, verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpénaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns de ses enfants d'Israël, de race royale, de famille noble, des jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doux et de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capable de servir dans les palais des rois. Wow! Hey! Daniel, s'il y en avait un dans tout Israël qui aurait pu ne pas vouloir dépendre de Dieu, c'est bien lui. Un gars qui avait tout pour lui. Un gars super intelligent. Un gars qui était sans défaut corporel. Un gars qui était dans la famille royale. T'as-tu encore besoin de Dieu quand l'argent rentre à pleine poche? T'as-tu encore besoin de Dieu quand tout le monde se penche devant ton visage parce que t'es super beau? Puis toutes les filles veulent te marier? T'as-tu encore besoin de Dieu lorsque t'es intelligent puis t'es capable de faire à peu près n'importe quoi, que toutes les compagnies courent après toi pour t'engager? T'as-tu encore besoin de Dieu? L'autosuffisance. Daniel, dans son autosuffisance, ça aurait pu le pousser à dire, dans le fond, je n'ai pas vraiment besoin de Dieu. Puis faire sa vie avec tout ce qu'il y avait dans les bénédictions que Dieu lui avait données, tout en oubliant celui qui avait fourni la bénédiction. L'autosuffisance est un piège pour les chrétiens. En Occident, on a plein de facilités. J'en reviens pas. Je vais pas souvent à l'épicerie. J'aime pas aller magasiner, pour ceux qui le savent. Mais quand tu rentres dans une épicerie, l'épicerie d'aujourd'hui, tu te dis, ça se peut-tu, le stock qu'il y a ici. C'est incroyable. On est dans l'abondance par-dessus la tête. Et on est tout autosuffisant. Qu'il arrive n'importe quoi, qu'est-ce qui peut arriver? On va-tu manger demain matin? Lorsque j'ai perdu ma job en 2007, lorsqu'on a fermé mon usine, j'étais déçu parce que Je perdais beaucoup, beaucoup de sous. J'étais juste auprès de ma pension, puis je ne l'avais pas le droit. Ça représentait peut-être 600-700 000 piastres de perte. Je n'étais pas content la journée où j'ai appris ça. Puis les gens pleuraient, les gars qui étaient dans ma situation, ils pleuraient à côté de moi à l'usine en apprenant la nouvelle. Mais ce que j'ai dit aux gens, j'ai dit, écoutez les gars, on n'est pas en Afrique ici, là. On n'est pas dans des pays sous-développés. Avant que le ventre nous grossisse puis qu'il se remplisse de verre parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas mangé ou je ne sais pas quoi, qu'on a bu de l'eau pas propre puis, ou des choses comme ça. On est loin de ça. On va survivre, voyons. On est dans l'abondance. Et souvent, l'autosuffisance fait qu'on peut penser qu'on n'a comme plus besoin de Dieu. On est en business, vous êtes peut-être en affaires. Vous dirigez peut-être des employés et vous êtes maître de votre situation. Et puis ça va bien, votre affaire, la business va bien, puis tout marche. Vous êtes en santé, tout va bien, puis vous n'avez pas besoin vraiment de Dieu. Et ça, c'est un piège pour les croyants. Celui qui est autosuffisant et qui s'appuie sur son autosuffisance, lorsque les choses vont venir à y manquer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir en dépression parce qu'il n'est pas habitué à ça. Il y en a qui se sont suicidés à l'usine après la fermeture. Et ce qui était mal arrangé, ben non, la plupart, c'était tous des gens de mon âge. En partant, même si tu n'avais pas le droit à ta pension, ils te donnaient 250 000 piastres ou 200 000 piastres pour t'en aller. Ben, avant de mourir, tu as quand même un bout de chemin. Mais les gens se suicidaient. Les gens se sont suicidés. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient son quatre roues, son bateau, sa maison, son... toutes ces patentes qu'il est habitué d'avoir, sur lesquelles il s'appuyait, puis là, il est plus sûr de pouvoir les avoir puis les garder. Lorsque tu es père, qu'est-ce que ça fait? Lorsque tu t'appuies sur ton autosuffisance, eh bien, tu viens en colère avec Dieu. Pourquoi tu montais ça? Tu te fâches après Dieu. Puis tu viens en dépression. Parce que là, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu t'appuyais sur toutes ces choses-là, puis c'est parti. Puis tu n'es pas habitué de t'appuyer sur Dieu. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Il savait qu'il était fragile. Puis si tu m'enlèves, il fait peur de m'attaquer au nom de mon Dieu parce que j'ai trop tendance à m'appuyer sur mon autosuffisance. En réalisant notre dépendance de Dieu, on va rester attaché à Dieu. On va tenir bon, puis on ne lâchera pas prise. Parce qu'on dépend de Dieu. Puis je ne sais pas c'est quoi qui est votre situation. Peut-être que vous avez tout dans la vie, puis qu'il vous manque absolument rien. Mais sachons une chose, que c'est Dieu qui nous donne le mouvement, la respiration et l'être. On restera, quelle que soit notre situation, qu'on soit beau, qu'on soit intelligent, qu'on soit n'importe quoi, on sera toujours dépendant de Dieu. Parce que c'est lui qui nous fait vivre. C'est lui qui nous tient debout. L'autosuffisance. Le monde. Verset 5. Le roi leur assigna pour chacun, chaque jour, une portion des mets de la table du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles il les mettrait au service du roi. On a lu que Daniel, il ne voulait pas manger la table du roi. On lit dans le Nouveau Testament, on est dans l'Ancien Testament ici. On n'est pas en train de dire ici, comme il y a des chrétiens ou des mouvements chrétiens qui sont partis et qui disent que les vrais chrétiens bibliques, ils mangent juste des légumes. Parce que c'est écrit ici dans Daniel que Daniel, il ne mangeait pas la table du roi puis il mangeait des légumes. Attention, ce n'est pas ça que le texte dit. Oui, Daniel voulait manger juste des légumes pour une raison particulière, parce que dans la loi juive, il y avait des viandes qu'il n'avait pas le droit de manger. Des viandes qu'il n'avait pas le droit de manger parce que c'était des rituels ou des lois qui enseignaient des principes spirituels. Et lorsque l'Église est arrivée, ces lois-là n'ont plus été nécessaires avec Jésus-Christ. Donc, on n'est plus sur cette loi de l'Ancien Testament où on ne peut plus manger de porc, où on ne peut plus manger de poisson avec des écailles ou quoi que ce soit, comme c'est marqué dans la loi. Mais dans le temps de Daniel, c'était là. Puis de manger de ces choses-là, pour Daniel, à ce moment-là, c'était désobéir à son Dieu. Et pendant que son Dieu, il aurait pu dire, « Tu m'as abandonné, tu m'as envoyé dans un autre pays, tu m'as arraché à ma famille, et maintenant je suis rendu esclave dans un autre pays, bien, regarde, maman, va à la table qu'il y a là. Je vais prendre ce qu'il me donne. » Non, il dit, « Je ne peux pas manger ça, moi. » Parce que dans ma loi, c'est défendu. Et moi, même si je suis parti dans le monde, dans un autre monde, je ne veux pas participer à ça. Parce que je veux rester fidèle à mon Dieu. Ah bien, ça aurait pu lui coûter cher, ça aurait pu lui coûter la vie de ne pas vouloir manger à la table du roi. C'était toute une insulte. Et là, c'était non seulement ça aurait pu lui coûter la vie à lui, mais ça aurait pu coûter la vie à celui qui s'occupait de lui, l'eunuque qui était là. Puis c'est ce qui a eu peur. Il a dit, écoute, tu mets ma tête à prix, là, parce que si je te donne ce que tu demandes, puis que tu n'as pas une meilleure mine que les autres, moi, il risque de me couper la tête. Là. Il coupe la tête pour à peu près rien là, dans ce temps-là. Les rois, là, il n'avait pas besoin d'appeler le juge et dire, je peux-tu y couper la tête? Il fait juste dire au gars, regarde, coupe-lui la tête, lui, je ne le veux plus. Puis il ne passait pas en cour, puis il ne se passait rien. Il était roi suprême. Fait que les eunuques, ils marchaient les fesses serrées, puis il fallait que ça se fasse comme il faut. Mais Daniel, il sachant tout ça, et tous les risques inhérents à ça, non, il ne veut pas. Mais il va avec sagesse, puis il essaye de convaincre l'eunuque de lui permettre de manger des légumes, et il va l'avoir. Ils vont lui donner ses légumes. La table du roi. Le monde est rempli de concepts anti-Dieu. Nos télévisions, ça en est bondé. Tout ce qui se passe, Internet, la littérature, nos universités, tout ce qui est là dans le monde, c'est Satan est le prince de ce monde. N'oublions jamais ça. Et les choses qui sont instituées dans le monde sont là pour être des pièges, pour attirer les gens à se détourner de la loi de Dieu ou des principes de Dieu. Et il faut être comme Daniel, faire attention à ce qu'on mange. Il faut faire attention à ce que le monde nous offre. Il faut faire attention à ce que la table du monde nous a placé devant nous et qui est si facile à prendre. On nous la pousse dans la gorge, les principes du monde. Et malheureusement, je crains que les chrétiens ont de plus en plus de misère à discerner, lorsqu'on côtoie les choses du monde, à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. C'est très subtil, la façon dont le monde veut nous inculquer ses principes. Quand je vois Claudie, puis je me rappelle qu'on avait loué un film quand elle était jeune, puis c'était Cobaye. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce film-là, Cobaye. Cobaye, c'est un gars qui travaillait dans une église, puis il n'était pas bien brillant. C'est un gars très, très, très limité intellectuellement. Mais il y en a un qui faisait des expériences, puis en les connectant sur des machines qui vont les emmener à développer leur cerveau, ils devenaient super intelligents. Pas intelligents, super intelligents. Et dans ce film Cobaye-là, lui, le gars qui travaille dans l'église, ils mettent une église, ils mettent ce qui représente la spiritualité dans notre monde, qui était l'église. Pour la plupart des gens qui vont voir le film, l'église, ça représente Dieu, la spiritualité. Puis lui, la spiritualité dans le film, c'est qu'il est en train de nettoyer les marches de l'autel. Et là, on voit le prêtre représentant de tout ça arriver avec son fouet parce qu'il y avait une petite saleté qui a resté sur la marche. Et là, il te le reprend sévèrement. Puis le gars, il s'écrase à terre parce que je n'avais pas vu qu'il restait une petite poussière là. Et là, on voulait, par ce film, en fait, démontrer une chose. La religion vous écrase. C'est ça que ça l'enseignait, ce film-là. C'est ça que j'ai expliqué à Claudie. Tu peux-tu voir en arrière du film comment on regarde dans le monde la spiritualité? C'est ça. La spiritualité, là, c'est ça qui écrase les gens. Puis quand tu deviens spirituel, là, ou tu t'approches des choses spirituelles, là, eh bien, on te frappe et on t'humilie. Puis tu ne peux pas devenir intelligent. Tu vas rester comme tu es là, comme lui. Un imbécile heureux, un imbécile malheureux, plutôt. Mais si tu développes ton cerveau, si tu commences à penser, au lieu de t'appuyer sur la parole de Dieu, là, puis de prendre les principes spirituels qu'il y a dans la parole de Dieu, au lieu de faire ça, si tu développes ton cerveau, et c'est de là probablement qu'on a cette fameuse idée qu'on développe juste 10 % de notre cerveau. J'écoutais à Radio-Canada la semaine passée un reporter qui disait ça. Il parlait des faussetés qui sont rentrées dans la tête des gens. Puis il disait ça, c'était un scientifique. Il disait, c'est-tu vrai ça qu'on développe juste 10 % de notre cerveau? Non. Ça, c'était complètement inventé. Puis ça a été mis à travers justement tous ces médiums-là. Et là, dans le fond, nous autres, on est quasiment comme des dieux. Puis c'est juste parce qu'on utilise une petite partie de notre cerveau qu'on n'est pas capable de se guérir tout seul, qu'on n'est pas capable d'aller au ciel tout seul, puis qu'on n'est pas capable de tout faire tout seul, puis qu'on a besoin des béquilles spirituelles, puis qu'on s'approche. C'est pour ça que le monde va dans les églises, puis ils s'attachent aux religions parce qu'ils ne sont pas intelligents, puis ils ne veulent pas développer leur intelligence. Je donne là un exemple parmi des milliers d'exemples. C'est ce qu'il y a dans le monde. Et souvent, je vais vous dire, si j'avais interrogé les gens qui sortaient du cinéma après avoir vu le film Cobaye, leur demander, est-ce que tu as perçu l'enseignement qu'il pouvait avoir dans ce film-là? Ah non, c'était super. Hein, quand il a mangé le prêtre avec la tondeuse, ça, c'était vraiment spécial. Hein, parce que là, à un moment donné, là, il montre dans le film comment on se débarrasse de la religion. Il arrive avec sa tondeuse, puis il passe, il découpe le curé, là, il le découpe en morceaux avec une tondeuse. Il faut rester à l'affût de l'idée que le monde veut nous enseigner. Partout. Quand la parole de Dieu nous dit qu'on doit exercer notre discernement, bien, exerçons-le, notre discernement. Laissons pas entrer n'importe quoi dans nos oreilles, dans nos yeux. C'est pas le fait de le voir, c'est même pas le fait de l'entendre, mais c'est le fait de le voir et de l'entendre sans chercher à comprendre puis à discerner. Est-ce que ce que j'entends là, ça s'associe ou ça s'unifie avec la parole de Dieu? Non. Le monde. Dernier point, la perte d'identité. Verset 7. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, Ananias, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, Azariah, celui d'Abednego. Des noms qu'on voulait donner quand on cherchait des noms pour nos enfants. On faisait des farces, on disait, hey, ça serait pas pris, Abednego. On a changé d'idée. Pas ceux qui auraient aimé ça. Pourquoi on a changé le nom de Daniel, puis Michaël, puis Azaria? Pourquoi qu'on changeait le nom? On changeait le nom pour leur faire perdre leur identité. Parce que dans les noms, tu as une identité. Daniel, ça voulait dire qui est comme Dieu. Nebuchadnezzar, qui adorait des faux dieux, n'était pas content, lui-là, qu'il y ait un gars qui était à son service, puis qui ne voulait rien savoir de son Dieu, puis qui avait un nom qui s'associait à un autre Dieu que le sien, qui s'appelait Daniel. Puis les autres, pareil. En Israël, tous les noms étaient associés à un aspect de leur Dieu. Et c'était comme ça aussi avec Nebuchadnezzar. Puis leur faux dieu. Parce que Belshazzar, c'était le dieu Bel en Israël, c'est-à-dire à Babylone. Alors on a changé le nom de qui est comme Dieu pour Belshazzar, c'est-à-dire maintenant tu appartiens à un autre dieu, Bel. Alors on lui vole son identité. Puis on fait ça avec les trois autres. On leur enlève leur identité. Lorsque nous sommes arrivés, nous ici en Amérique du Nord, il y avait 50 millions d'Indiens qui étaient là. Oui, c'était des gens attachés à des pratiques occultes. C'était des gens, c'était pas des chrétiens et tout ça. Mais pour les assimiler, on les prenait puis on changeait leur nom. Beaucoup d'Amérindiens ont eu leur nom changé. Et on faisait pas juste changer leur nom. On changeait leurs vêtements aussi. Parce que les vêtements avaient aussi dans les rituels amérindiens des significations. Et on ne voulait pas qu'ils restent attachés à ces significations-là. Alors, on leur donnait des vêtements différents, des vêtements occidentaux. Et on changeait là aussi leur nom. Donc, ce n'est pas nouveau. de changer les noms, mais le but de ça, c'est de te faire perdre ton identité. Et Daniel perdait ou aurait pu perdre son identité par ce moyen que Nebuchadnezzar avait choisi. Et perdre son nom, qui est comme Dieu. On est présentement en grand débat au Québec avec la neutralité de l'État concernant la religion. On veut être neutre comme État, puis on ne veut pas s'identifier à la religion. Mais la question que je me pose, est-ce qu'on veut vraiment être neutre ou bien est-ce qu'on veut rejeter toute religion pour l'athéisme? Parce que l'athéisme, c'est une religion aussi. Tu crois quelque chose quand tu dis « Dieu n'existe pas ». Quand tu dis « tu crois pas », là, non. Tu crois quelque chose, tu fais juste croire à autre chose. Tu dis que Dieu n'existe pas. Et c'est ce qui se produit dans la société dans laquelle on vit. On veut de plus en plus, on ne peut plus prier aux réunions de la municipalité. On veut plus enlever tous les signes religieux dans les universités ou partout. On veut enlever ça. On veut faire perdre l'identité chrétienne du Québec, même si c'était associé à la religion populaire du catholicisme dans le temps. Ça parlait quand même de Dieu, de Jésus-Christ et du salut, et de Jésus mort sur une croix et tout ça. Mais on veut enlever ça, de peur que les gens découvrent la vraie signification de toutes ces choses-là. La perte d'identité, la laïcité à l'extrême vont nous empêcher bientôt de prier, peut-être, comme c'était le cas pour Daniel, vont nous empêcher la possibilité d'émettre des reçus d'impôts. Dans nos églises, on émet des reçus d'impôts pour dons de charité. Je ne suis pas sûr que ça va rester en place encore longtemps. On voudra sûrement enlever ça. La Bible même peut devenir un livre à proscrire, un livre illégal, parce que égalité homme-femme, très important. Et lorsqu'il y en a un qui sera assez verbomoteur pour faire réaliser que dans la Bible, ça dit que l'homme est le chef de la femme, on a ce qu'il faut pour... On ne veut pas tout ça dans le Québec, là. Des hommes chefs de deux femmes. Là. Ça n'existe pas, puis on n'en veut pas. Donc, ce livre-là, c'est à proscrire. Ce serait facile à imaginer qu'un jour, on en arrive là. Le but de tout ça, c'est de faire perdre notre identité. Les premiers chrétiens ne pouvaient pas s'identifier facilement. Ils se cachaient. Ils s'identifiaient par des poissons. Il y en a qui ont ça sur leur voiture, là, des poissons. Si on nous rappelle cette ère de persécution où on cherche à t'enlever ton identité, où c'est obligé de te cacher pour être chrétien, ou que c'est plus populaire d'être chrétien. Lorsque ce sera vraiment plus populaire d'être chrétien, est-ce que vous allez l'être encore? Daniel, c'était plus populaire qu'il soit chrétien. Il était dans un autre pays et on adorait un autre Dieu ou d'autres, plusieurs autres dieux. Donc, le refroidissement du peuple de Dieu, est-ce que votre relation avec le Seigneur est une relation de groupe, une relation personnelle? Les programmes de l'Église, est-ce que c'est vital pour vous? Est-ce que c'est ça qui vous amène à l'Église? Ou est-ce que c'est ça, la parole de Dieu, qui vous amène à l'Église? Est-ce que vous êtes tellement béni par Dieu que ça vous amène à vous éloigner et à vouloir même tout abandonner? Est-ce que le monde vous séduit et que vous avez de la difficulté à discerner ce qui se passe dans le monde? Et si ça devient moins populaire d'être chrétien, est-ce que vous allez tenir bon? Que le Seigneur nous aide à arriver, à s'attacher, à être de ceux qui lâchent jamais et qui ne se laissent pas tromper par tout ça. Pourquoi? Au verset 9, Daniel a trouvé grâce auprès des eunuques. Pourquoi? Parce qu'il y avait un meilleur visage que tous les autres en faisant ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il était plus intelligent, 10 fois supérieur à tous les autres sages qu'il y avait à Babylone. Et c'est ce qui arrive avec un chrétien qui s'attache avec Dieu. À cause de ta parole, j'ai plus de sagesse que ceux qui m'enseignent, disait David, qui était un roi intelligent. Mais la parole de Dieu, c'était la source de son intelligence, de sa sagesse. Pourquoi? Eh bien, qu'on puisse tenir bon. Être de ceux qui ne lâchent pas jamais en faisant attention à toutes ces choses. Que le Seigneur nous garde et que le Seigneur vous bénisse. Je me réjouis de voir la situation par laquelle vous êtes passé. C'est long, la bâtisse, l'Église nouvelle n'est pas encore arrivée. Ça a été long, ça a été difficile. Il y a eu des déchirements, des gens sont partis, il y a eu des disputes, il y a eu toutes sortes de choses. Ça n'a pas été facile de tenir ça, mais je suis content de voir le groupe qui est là aujourd'hui et qui font partie de ceux qui ne lâchent pas, qui s'attachent, qui restent, parce que sûrement vos convictions spirituelles ont été formées avant tous ces événements et vous vous êtes attachés au Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, on veut te louer pour cette parole. Merci pour Daniel, pour ce modèle qu'on peut retrouver dans les Écritures. Merci de nous donner cet enseignement qui nous dirige, qui nous sanctifie, qui nous encourage. Donne-nous d'être gardés de tous ces pièges qui sont là dans le monde, afin de nous éloigner. Seigneur, la vie chrétienne n'est pas toujours facile, et tu le sais, et tu connais tous nos combats. Et nous voulons, nous te disons que nous n'avons pas changé d'idée. On s'est attaché à toi il y a plusieurs années. Pour certains, c'est plus récent. Et on veut rester attaché à toi. Et on te demande de pouvoir le faire par ta grâce, au nom du Seigneur Jésus. Amen.